Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous et bienvenue dans Géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Il y a 5 ans, le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 janvier 2020, puis du territoire douanier l'année suivante. Cet anniversaire tombe en plein retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et les interrogations autour de la relation spéciale entre le Royaume-Uni et les États-Unis sont là. Le Premier ministre travailliste britannique a essuyé des tirs à boulets rouges de la part d'Elon Musk. Keir Starmer a de son côté souvent accusé ses adversaires conservateur anglais de ressembler à Donald Trump, ce qui dans sa bouche n'était pas un compliment. La route promet d'être un peu compliquée. Parallèlement, l'arrivée du gouvernement travailliste en juillet dernier s'est accompagnée d'un changement de ton et de rhétorique à l'égard de l'Union européenne qui contribue à améliorer la relation politique entre le Royaume-Uni et ses voisins et à changer progressivement la perception qu'ils ont de son rôle en Europe. États-Unis, Union européenne, de quel côté le Royaume-Uni va-t-il pencher ? Pour répondre à cette question, nos invités, Sylvie Matelli, directrice de l'Institut Jacques Delors, bonjour.
Bonjour.
Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, bonjour.
Bonjour.
Et Thibault Arroy, maître de conférences en civilisation britannique contemporaine à l'Université Sorbonne Nouvelle, bonjour.
Bonjour.
Alors, on avait parlé d'économie entravée, de réputation internationale écornée, de chaos politique. Qu'est-ce qu'il en est du Royaume-Uni aujourd'hui ? Le Brexit a-t-il été, comme annoncé, une catastrophe pour l'économie britannique ? Qui se lance, Sylvie Matelli ?
Alors, il n'a pas été la catastrophe annoncée, c'est certain, c'est-à-dire les conséquences n'ont pas été tout à fait celles qu'on avait annoncées. Elles ont été pires pour certains secteurs, et on a vu que un certain nombre de secteurs publics ont été largement affectés. C'est le cas du NHS, dont on espérait pourtant que l'argent économisé avec l'Union européenne allait être réinvesti.
NHS, c'est juste le système de santé.
Tout à fait. Mais les conséquences ont été réelles, et surtout, au-delà des conséquences économiques, qui sont difficiles à évaluer parce qu'elles sont difficiles à isoler des conséquences du Covid, des conséquences de la guerre en Ukraine. Je crois que ce qu'il faut voir, c'est que c'est un pays qui se retrouve à douter profondément. La crise politique qui a rythmé toutes les années de négociations après le référendum de 2016 jusqu'à quasiment... Alors, on peut dire que la nomination de Rishi Sunak avait un petit peu calmé le jeu, mais jusqu'à l'élection de Keir Starmer, on a vu une crise politique et une mise en cause des conservateurs qui étaient violentes. Donc cette crise politique quand même était inattendue et elle a été extrêmement forte, extrêmement violente. Elle a conduit à une multiplication, à des changements réguliers de gouvernement avec l'exemple de Liz Truss qui n'a duré je crois que 49 jours, ce qui est la plus faible durée d'un Premier ministre au Royaume-Uni. Et puis le deuxième élément, c'est la perte de confiance et le pessimisme des Britanniques qui ne nous avaient pas habitués à ça. Mmh. Avant le Brexit, tout allait bien au Royaume-Uni, ou en tout cas les choses allaient plutôt pas mal. C'était le pays en Europe qui affichait depuis plusieurs années plus fort taux de croissance économique. C'est un pays qui était prospère, qui commerçait avec l'Union européenne. Alors même s'il y avait des inégalités, même s'il y avait des problèmes, tout n'allait pas pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais c'est un pays qui avait confiance en l'avenir et pourtant qui a voté la sortie, qui a voté une sortie en pensant qu'ils allaient aller encore mieux dans l'avenir finalement. Et ça a tout cassé. Et on voit, je conclue juste là-dessus, on voit une montée année après année inexorable des personnes qui regrettent ce Brexit. De là à dire qu'ils ont envie de revenir dans l'Union européenne, il y a quand même un grand pas à franchir, mais en tout cas un nombre croissant de personnes qui regrettent.
Alors effectivement, un pays qui doute, perte de confiance, un pays très polarisé aussi. Sylvie Matelli le disait à l'instant, beaucoup de Britanniques regrettent ce choix. Votre commentaire, Thibault Arroy ?
Oui, alors je modérerais peut-être un tout petit peu la situation du Royaume-Uni avant le Brexit, parce que en réalité, c'est un pays qui, depuis 2010, était en proie à des politiques d'austérité. Il y a quand même eu des grandes coupes dans le budget des services publics. Et on pense que c'est une des raisons qui a pu expliquer que la population, finalement, choisisse de sortir de l'Union européenne, puisqu'il y avait quand même une déception, un désespoir vis-à-vis de l'avenir de ces services publics. Et par manque de solutions au niveau national, on a accusé l'Europe d'être responsable aussi d'un certain nombre de ces problèmes. Et donc, finalement, il fallait tester autre chose. Et tester autre chose, ça voulait dire tester le Royaume-Uni hors de l'Union européenne. Alors, évidemment, il n'y a pas que cette raison-là. Il y a d'autres sujets qui se sont accumulés, beaucoup de fausses informations. Et on a parlé du système de santé. Et c'est vrai que la promesse de financer le service public de santé en sortant de l'Union européenne, en faisant des économies sur le budget alloué à l'Union européenne, ça c'était un des grands mensonges du Brexit et on a su immédiatement après même, hein, parce que même Boris Johnson qui avait mis en avant cet argument a immédiatement démenti après le vote du Brexit en disant que en fait jamais cet argent ne pourrait suffire pour financer le budget de la santé. Et la crise du Covid, d'ailleurs, n'a rien changé à cela, puisque malgré les promesses d'investir davantage dans le système de santé, en fait, il n'en est rien. Et aujourd'hui, c'est un système qui est encore en crise, et le gouvernement actuel a encore des solutions à trouver pour ce système public.
Alors, les conservateurs britanniques qui ont été au pouvoir jusqu'en juillet dernier, pendant 14 ans, vous avez évoqué la notion de mensonge par rapport aux bienfaits du Brexit. Alors, ce qu'ils ont montré, finalement, Jean-Dominique Giuliani, c'est... que finalement, ils n'avaient pas la moindre idée de gérer l'après-Brexit et que leurs promesses n'étaient que des slogans vides. Est-ce que, d'après vous, en dehors du traumatisme qu'a généré le Brexit, la question de la mauvaise gestion entre pour une large part sur l'échec que oui. nous sommes en train d'évoquer ?
Ça pourrait s'appliquer à d'autres en Europe aussi, n'est-ce pas ? L'accusation de mauvaise gestion. Là, je crois que c'est ce que vous disiez à juste titre... C'est l'énormité des mensonges. Le mensonge que sur l'immigration, par exemple, me paraît être révélateur d'un discours politique complètement truqué et tronqué qui a dû contribuer à cette perte de confiance. Et ça me paraît assez spectaculaire, connaissant vaguement et moins que vous la politique britannique, où quand même on avait l'habitude de se dire les choses d'une manière un peu cash, etc. Là, le mensonge était énorme. Et la deuxième chose qui me frappe beaucoup, et qui à mon avis va peser sur les conservateurs pour un moment, c'est le retour de la pauvreté, et qui est visible. Car contrairement à nos États continentaux de l'Union européenne, où on le voit déjà, n'est-ce pas ? On voit déjà la pauvreté revenir. C'est encore plus visible au Royaume-Uni, je crois, avec des chiffres affolants. Vous me direz s'ils sont justes ou pas, disant que 40% des Britanniques ont un problème avec leur alimentation, par exemple, ou des choses comme ça. Dans un pays qui, il y a quelques années, était plutôt triomphant par rapport aux pays du continent. Donc je trouve ça spectaculaire et je pense que c'est vraiment la faillite d'une classe politique conservateur surtout, mais je pense que la perte de confiance s'étend à tous les partis et on voit d'ailleurs, malgré tentatives de Nigel Farage ou des choses comme ça, on voit quand même qu'on... les électeurs sont lassés de ce bipartisme qui raconte des mensonges et ne délivre pas ses promesses.
Alors Nigel Farage, pour nos auditeurs, donc le leader du parti Réforme UK, qu'est-ce qu'il a à proposer aujourd'hui, ce parti ?
Alors c'est un parti qui est l'héritier du parti UKIP. Donc c'était le parti qui avait été fondé dans les années 90 hein, pour sortir de l'Union européenne. Et Nigel Farage était déjà le leader de ce parti qui avait comme seul objectif cette sortie de l'Union européenne. Et puis finalement, après le Brexit, Nigel Farage a quitté UKIP et a fini par refonder un autre parti, Reform UK, dont il a pris la tête il y a quelques années, pour continuer cette œuvre de transformation, selon lui, de la politique britannique en faisant pression sur la droite du parti conservateur. Et l'idée maintenant, c'est de préserver le Brexit, faire attention à ce que les autres partis n'aillent pas à l'encontre des décisions qui ont été prises entre 2016 et 2020, et de continuer à faire pression sur le Parti conservateur pour qu'il se mue en un parti qui adopte les guerres culturelles, qui adopte la rhétorique finalement un peu à la Trump, d'une droite extrême ou d'une droite populiste, et qui donc dénoncerait les tendances wokistes des autres partis, en particulier du Parti travailliste.
Alors, Nigel Farage, dont on peut souligner, puisque vous parliez de Donald Trump, qu'il était le seul, finalement, invité des Anglais à assister aux cérémonies d'investiture de Donald Trump à Washington. Sylvie Matelli, vous l'avez dit, pays qui doute, perte de confiance. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui du Royaume-Uni que c'est un pays vulnérable ?
C'est un pays vulnérable parce que le Brexit, parce que la pandémie de Covid, parce que la guerre en Ukraine, et d'autant plus vulnérable qu'il est aujourd'hui isolé en réalité. On a été confronté en Europe aux mêmes crises et aux mêmes difficultés. Le Brexit, ça concernait aussi l'Union européenne et ça a aussi eu des conséquences sur l'Union européenne, le Covid et la guerre en Ukraine, bien évidemment, de la même manière. Mais on voit, et on le voit très clairement face à Donald Trump, c'est que certes, on s'est inquiété ces derniers jours du manque de réaction et du manque de visibilité de l'attitude des Européens face à Donald Trump, mais on sait qu'on est ensemble et on sait que dans la pire des situations, on pourra compter les uns sur les autres. Et aujourd'hui, le Royaume-Uni se trouve isolé. C'est bien pour cela que Keir Starmer a démarré un processus de rapprochement avec l'Union européenne, mais également avec un certain nombre de pays européens dans une relation bilatérale, parce que il sait très bien que face aux États-Unis et face aux crises qui viennent, au règlement du conflit en Ukraine par exemple, ils vont être relativement seuls et isolés. En fait, il faut se rappeler que le Brexit était perçu comme la possibilité pour les Britanniques d'aller renégocier avec le reste du monde. C'était le fameux Global Retain. Or, en réalité, renégocier des accords commerciaux, renégocier des partenariats qui seraient bien plus favorables au Royaume-Uni qu'ils ne l'étaient tant que le Royaume-Uni était dans l'Union européenne. En réalité, ça s'est révélé bien plus compliqué que prévu et ça n'a pas du tout abouti. On parle beaucoup moins, alors j'ai l'impression, mais je parle sous votre contrôle Thibault, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup moins de ce Global Britain au Royaume-Uni parce que quelque part c'est un constat d'échec que l'on peut faire sur cette thématique-là.
Alors, vous souhaitez rebondir, oui. Thibault Arroyo. Après ça, je vous passe la parole, Dominique.
Oui, alors en effet, c'était le grand discours de Boris Johnson, hein, Global Britain. C'était l'idée que le Royaume-Uni allait enfin retrouver une place, soi-disant perdue pendant qu'il était membre de l'Union européenne, sa place dans le monde. Alors déjà, on pouvait contester l'idée que le Royaume-Uni avait perdu sa place quand il était membre de l'Union européenne. Et en effet, c'était extrêmement difficile de retrouver un rôle international après être sorti de l'Union européenne. Au contraire, ça semble contre-intuitif, puisque le principal partenaire économique du Royaume-Uni, ça reste l'Union européenne, y compris après le Brexit, et retrouver une place dans le monde, c'est-à-dire avoir une place ailleurs, ou particulièrement, alors le principal lieu pour retrouver cette place, ça a été l'Asie-Pacifique, l'Indo-Pacifique. On a vu la multiplication d'accords avec le Japon, avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande.
Là, vous parlez de l'accord du partenariat commercial avec les pays du Pacifique.
Alors, il y a le CPTPP, l'accord transpacifique, mais pas seulement. Il y a eu aussi des accords bilatéraux avec ces pays-là. Mais finalement, on voit que le contenu de ces accords, c'était la reproduction des accords que ces pays ont avec l'Union européenne. Donc finalement, le Royaume-Uni a réussi à retrouver sa place, en tout cas maintenir sa place avec ces pays comme quand il était membre de l'Union, mais pas à trouver une meilleure place. Et en tout cas, on voit mal comment l'importation de moutons néo-zélandais sur le marché britannique va compenser la sortie de l'Union européenne. C'est sans commune mesure. Et on a aussi parlé de Global Britain en termes de présence militaire, par exemple. C'était aussi un autre horizon de ce discours sur la Grande-Bretagne mondiale. Mais au final, le Royaume-Uni reste une puissance qui est présente dans la zone euro-atlantique, hein, puisque simplement on ne fait pas mentir la géographie. Et on a bien vu avec la guerre en Ukraine qu'il y a eu un recentrage des intérêts britanniques sur la zone euro-atlantique et que l'Indo-Pacifique, certes, joue un rôle dans la stratégie britannique, mais pas aussi important que ce que Boris Johnson prétendait immédiatement après le Brexit.
Donc, je l'ai dit, cinq ans que le Brexit est entré en vigueur, la sortie donc du Royaume-Uni de l'Union européenne. Est-ce qu'on n'a pas encore tout vu quant aux conséquences du Brexit, Jean-Dominique Giuliani, sur le Royaume-Uni? Est-ce que le pays a touché le fond ou pas encore? J'aimerais qu'on parle un tout petit peu des questions d'immigration. Et puis enfin, est-ce qu'un retour en arrière est possible?
Franchement, je n'en sais rien, en tout cas pas dans une perspective proche. Mais pour compléter ce qui vient d'être dit fort justement, ce qui me frappe, c'est l'affaiblissement de la posture et de la place du Royaume-Uni sur la scène internationale. Pour moi, ce qui faisait encore il y a quelques années la posture britannique, c'était cet engagement au profit de la liberté, on l'a vu en Ukraine, ils ont essayé, avec parfois sans réfléchir tout à fait aux conséquences, c'est-à-dire invoquer les mannes de la Seconde Guerre mondiale en réalité. Quand on voit l'état de l'outil militaire britannique, on s'aperçoit qu'il a carrément fondu sous l'effet des coupes budgétaires des conservateurs. Je me souviens d'un exemple, au moment où il se posait la question de savoir s'il allait construire des porte-avions, 8 milliards de livres de coupes budgétaires d'un coup, et des militaires qui pleurait quasiment de voir donc la période Thatcher où avec ce qui reste de l'outil militaire on va se battre pour les Malouines, elle est très très loin derrière.
C'est en 1982.
Et donc en Asie on voit la même chose. Vous disiez des accords passés. J'ai regardé l'accord passé avec le Japon. Ben, le Japon a fait la grâce au Royaume-Uni parce qu'il a des intérêts au Royaume-Uni de conclure un accord qui est exactement la même chose que ce qu'il a conclu avec l'Union européenne. Rien de plus, rien de moins, par chance. Mais dans l'ensemble, c'est un retrait de la scène internationale qui m'impressionne beaucoup. Je ne m'attendais pas à cela.
Vous souhaitez réagir, Thibault Roy ?
Oui, non, c'est tout à fait juste. Il y a ce retrait, en tout cas cette perte d'influence, mais qui malgré tout n'est pas nouvelle et qui n'est pas seulement due au Brexit. On vient de rappeler les années des conservateurs, et c'est vrai que ces coupes budgétaires ont aussi affecté l'armée. Et aujourd'hui, là où la guerre en Ukraine montre qu'il y a un besoin de réinvestir dans les forces armées, le choix qui se pose est aujourd'hui non pas d'avoir une armée complète, mais de choisir peut-être entre les forces navales ou les forces terrestres, et que peut-être le Royaume-Uni ne pourra pas développer à la fois ses forces terrestres et ses forces navales, et pourrait choisir d'être uniquement ou principalement une puissance maritime, ce qui aurait du sens, mais qui la couperait quand même d'un certain nombre de besoins, notamment pour répondre à des menaces sur le sol européen. Donc ça fait partie des choses qui sont évidemment discutées en ce moment au Royaume-Uni, et on voit bien que, comme dans d'autres États européens, il est extrêmement difficile de présenter à la population la nécessité d'investir davantage dans les forces armées, là où il y a d'autres besoins criants dans d'autres services.
En termes d'éducation, en termes de santé, qui sont vraiment les priorités. Sur l'immigration, Sylvie Matelli, les Britanniques ont-ils gagné quelque chose avec la sortie de l'Union européenne ?
Au contraire, en réalité, c'est que la pression migratoire aux frontières du Royaume-Uni n'a jamais été aussi forte, avec des autorités qui semblent complètement dépassées par rapport à ce sujet. Je crois qu'aujourd'hui, ce sont près de 600 000 personnes qui passent chaque année illégalement la frontière et entrent au Royaume-Uni. Donc, c'est quand même assez énorme. Je crois que l'objectif qui était fixé par le gouvernement au moment du Brexit, c'était 100 000 personnes, et d'arriver à 100 000 personnes. Donc, vous voyez qu'on est très, très, très loin du compte. Un autre élément, moi, je voulais rajouter à tout ce qu'on a dit sur la perte d'influence du Royaume-Uni, quelque chose qui avait été largement sous-estimé par le Royaume-Uni, et pourtant ça paraît une évidence rétrospectivement, c'est l'influence qu'avait ce pays au sein de l'Union européenne. Les choix et la voie choisie par l'Union européenne depuis le début des années 90, c'était clairement une voie, celle de l'ouverture, celle du marché unique, du libre commerce, c'était clairement une voie influencée par les Britanniques, qui étaient extrêmement rigides sur ces sujets-là. Et donc, aussi rigides qu'ils étaient, nous étions obligés de nous adapter. Et on voit que depuis le Brexit, l'orientation de l'Union européenne et des institutions européennes a profondément changé. Alors, c'est lié à un contexte géopolitique qui a évolué, bien évidemment, mais c'est aussi lié au fait que le Royaume-Uni est en partie cette rigidité sur des questions de marché économique. Pour eux, l'Union européenne ne devait servir que des intérêts économiques, ne devait être qu'un marché, ne devait absolument pas se politiser et avoir quelques velléités de puissance que ce soit, eh bien, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important qui a été perdu pour eux, pour peser aussi dans leurs relations avec le reste du monde.
Et on a toujours dit que la Grande-Bretagne était rentrée au sein de la communauté économique européenne, qui ne s'appelait même pas encore comme ça, en traînant les pieds. Oui. Alors, un retour en arrière possible, Sylvie Matelli. Après ça, dans la deuxième partie, on parlera bien sûr des liens avec l'Union européenne, ce qui se passe avec la Chine et avec les États-Unis, très rapidement.
Moi, je ne crois absolument pas un retour en arrière pour plusieurs raisons. La première raison, c'est une question de stratégie politique. Aucun homme politique au Royaume-Uni ne prendra le risque de remettre la main dans ce sujet-là qui a quand même divisé violemment. Rappelons qu'il y a une députée qui a été assassinée au moment du référendum. Donc ça, c'est le premier
élément. Alors, pour la deuxième raison, on va faire comme les épisodes à la télévision. J'invite nos auditeurs à vous retrouver, Sylvie Matelli, avec Thibault Arroy et Jean-Dominique Giuliani. Après le journal, à tout de suite.
Vous écoutez RFI, Géopolitique. Géopolitique. Marie-France Chatin.
Il y a 5 ans, le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 janvier 2020. 5 ans après, nous faisons un point avec Sylvie Matelli, directrice de l'Institut Jacques Delors, Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, et Thibaut Arroy, maître de conférences en civilisation britannique contemporaine à l'Université Sorbonne Nouvelle. Sylvie Matelli, je vous ai coupé la parole pour laisser la place au journal et je vous la redonne. Nous évoquions l'idée d'un retour en arrière possible. Voilà, alors Brexit, il y a 5 ans, mais voilà, retour progressif, je ne sais pas. En tout cas, vous disiez non, pour plusieurs raisons. Vous avez évoqué la première, qui a été de dire qu'aucun homme politique anglais ne prendrait le risque de remettre le sujet sur le tapis. Seconde raison pour une non-possibilité de retour en arrière.
Eh bien, c'est qu'on voit aujourd'hui les Britanniques se comporter comme ils l'ont toujours fait, et d'ailleurs comme ils l'ont fait aussi pendant les négociations du Brexit, et c'est là qu'ils se sont trouvés face à un mur et des Européens extrêmement unis pour imposer l'intérêt européen. C'est qu'aujourd'hui, ils sont plutôt dans une logique de se dire, mais au fond, on va aller puiser ce qui nous intéresse, dossier par dossier, soit en bilatéral avec certains pays européens, soit avec les institutions européennes et donc l'ensemble des pays européens. On va aller négocier sur les dossiers qui nous intéressent en espérant qu'on aura le meilleur et qu'on n'aura pas ni à payer ni à offrir des contreparties par rapport à ça. Et je dois dire que c'est d'ailleurs l'un des défis qui est posé aux Européens aujourd'hui, c'est de rester encore une fois unis face à ce Royaume-Uni qui a bien compris son intérêt et qui, comme toujours, le défend avec beaucoup de pragmatisme.
Alors, quel est-il justement ce sentiment européen, Jean-Dominique Giuliani, vis-à-vis du Royaume-Uni? On voit Londres être favorable à une relation plus fluide avec l'Union européenne. Donc c'est une sorte de reset que souhaite le gouvernement travailliste avec l'Union européenne. Mais derrière tout cela, il y a aussi les États-Unis avec de possibles réactions un peu compliquées qui posent en tout cas un dilemme au Royaume-Uni. Jean-Dominique Giuliani.
Oui, je ne sais pas comment on peut qualifier l'attitude de l'Union européenne à l'égard du Royaume-Uni. À la fois, c'est une satisfaction d'être resté uni et d'avoir eu raison, d'être ferme, je dirais donc fermeté, mais en même temps, ouverture, compréhension, parce que les liens demeurent forts sur le plan économique, pour la France par exemple, mais aussi sur le plan diplomatique, et on voit d'ailleurs l'Allemagne et le Royaume-Uni s'engager dans un traité comme un peu... Si nos partenaires allemands étaient jaloux des relations que la France entretient dans ce domaine militaire, notamment avec le Royaume-Uni. Et donc, je dirais à la fois fermeté et quand même intelligence, ouverture, avec le risque qu'évoquait Sylvie Matelli de se faire rouler dans la farine. Mais je crois quand même que les conséquences... sur le terrain du Brexit, rappelle aux Européens qu'il ne faut pas être trop naïf, et je ne crois pas qu'ils le soient, en l'occurrence. Je crois qu'ils sont très fiers d'avoir eu raison et d'avoir plaidé pour la non-sortie du Royaume-Uni en disant « c'est contre votre intérêt, ben nous on s'en satisfera, d'autres voudront adhérer ». Je crois que ça compte aussi beaucoup, il y a une forte pression à l'élargissement, qui, à mon avis, va encore marginaliser un peu le Royaume-Uni, qui était au sein de l'Union européenne peut-être le plus favorable à l'élargissement sur le thème « ça va les affaiblir ». Et tout ça, la guerre en Ukraine, le retour de Donald Trump, qui, à mon avis, aura des difficultés à faire vivre la relation privilégiée. Je ne vois pas ce qu'il peut offrir de plus au Royaume-Uni, peut-être que je me trompe. Donc, je dirais fermeté et puis en même temps bienveillance à l'égard d'un Royaume-Uni dont on trouve en difficulté, mais dont on a besoin pour renforcer l'Europe sur le plan géopolitique quand même.
Au-delà de ça, ça a calmé beaucoup d'Européens, ce Brexit. Ceux qui trouvaient que ce serait peut-être une bonne idée de faire pareil. Là, il n'y a plus personne pour s'exprimer dans ce sens, Thibaut Arroy. Et alors, quid de la relation privilégiée avec les États-Unis? Comment voyez-vous les choses? On sent bien Elon Musk, mais est-ce que Elon Musk a l'oreille de Donald Trump sur... Elon Musk qui a beaucoup critiqué le Premier ministre britannique travailliste actuel. Votre opinion, Thibaut Arroy.
Sur le premier point, c'est vrai que le Brexit a été traité comme le dernier cas de sortie. C'est-à-dire que l'idée des Européens, c'était de montrer que ce n'était pas une bonne idée. Il fallait envoyer ce message à tous ceux qui auraient pu être tentés de suivre le chemin. On parlait à l'époque d'une éventuelle sortie des Pays-Bas, on parlait de l'Italie, la France éventuellement, il y avait des partisans en France du Frexit. Aujourd'hui, il semblerait que tous ces discours sur la sortie éventuelle de ces pays de l'Union européenne ont été abandonnés. En tout cas, voilà, même les extrêmes droites sont beaucoup plus prudentes sur cette question et on n'entend plus ça comme une priorité absolue, même parmi les plus extrêmes et parmi les plus critiques de l'Union européenne. Donc ça, on peut dire, c'est une sorte de victoire de l'Union européenne d'avoir fait passer cette idée. Maintenant, sur la relation spéciale avec les États-Unis, c'est vrai que c'est une grande question, savoir comment le Royaume-Uni va pouvoir négocier cela dans les prochaines années. Et c'est vrai que je pense que Keir Starmer aurait préféré avoir affaire à une présidente Harris plutôt qu'au président Trump. Maintenant, voilà, on joue avec les cartes qu'on nous donne. Et le Premier ministre Starmer va certainement continuer à essayer d'avoir de bonnes relations avec les États-Unis, qui reste le principal allié du Royaume-Uni pour notamment les questions de sécurité. Et il est très important pour le Royaume-Uni de maintenir notamment l'OTAN en vie. Et ça reste l'organisation principale pour la sécurité européenne selon le Royaume-Uni. Alors, est-ce que les États-Unis vont continuer à soutenir l'OTAN ou est-ce que Trump va briller par son absence, comme ça a été le cas pendant le premier mandat, en laissant l'OTAN évoluer sans forcément influencer son avenir? Ou est-ce qu'il va y avoir une pression forte, au contraire, pour que les États de l'OTAN investissent davantage dans leur propre sécurité? Mais est-ce que ça veut dire avec ou sans les États-Unis? Ça reste une question en suspens. Et donc, Keir Starmer jouera avec cela. Maintenant, sur les questions économiques, c'est vrai que c'est là où on attend principalement les États-Unis et la pression qu'ils pourraient mettre sur le Royaume-Uni. Est-ce qu'il y aura la menace de droits de douane et de conditions pour l'économie britannique qui soient rendues telles que le Royaume-Uni penche plutôt du côté américain que du côté européen? Est-ce que les États-Unis vont faire miroiter à nouveau l'idée d'un accord de libre-échange, comme ça avait été le cas après le Brexit, où Trump avait envisagé cet accord, puis finalement, il n'avait jamais vu le jour, laissé à l'abandon après par le président Biden? Est-ce qu'aujourd'hui, faire miroiter cet accord sera une tentation suffisante pour le Royaume-Uni pour pencher du côté américain plutôt que du côté de l'Union européenne? Ça reste à voir, même si aujourd'hui, on pense plutôt que Keir Starmer s'oriente en effet plutôt vers une relation renforcée avec l'Union européenne. Il semblerait que ça soit davantage là son horizon et véritablement l'avantage du Royaume-Uni. Mais le reset dont on a déjà parlé, pour l'instant, reste aussi très théorique. Et on ne sait pas exactement vers quoi on s'achemine.
Sylvie Matelli.
Oui, peut-être trois petites réactions pour compléter ce qui vient d'être dit. Rappelez-vous ce qui avait fait capoter l'accord avec les États-Unis, c'était la volonté qu'avait Donald Trump de que le NHS, donc le système de santé, soit privatisé. Et même Boris Johnson n'avait pas voulu céder sur ce point-là, parce que bien évidemment, c'était totalement inacceptable pour une grande majorité des Britanniques. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut bien avoir conscience, on parlait tout à l'heure de l'affaiblissement international du Royaume-Uni, il faut bien avoir conscience que nous, on a très peur dans notre relation à Donald Trump, qu'il nous demande de clarifier notre relation à la Chine et puis de nous aligner sur les États-Unis, ou alors ça va faire très très mal, pour employer des termes à la Donald Trump. Imaginez le Royaume-Uni, ils sont dans une situation où, au-delà de la relation à la Chine, c'est aussi la relation à l'Union européenne qui va être questionnée, et nul doute que le nouveau président américain va faire tout ce qu'il peut pour essayer de convaincre les Britanniques qu'ils n'ont rien à faire avec les Européens, et qu'il faut qu'ils s'alignent sur les positions américaines. Quand on connaît, on a parlé de la relation spéciale, c'est aussi un handicap pour les Britanniques dans ce type de situation. Et enfin, je voulais juste dire un tout petit mot sur l'extrême droite européenne et la fin du Frexit et de toutes ces idées. Certes, c'est vrai, aujourd'hui, il n'est plus politiquement correct de parler de sortie de l'Union européenne, mais je dirais que c'est presque pire, parce que c'est un argument qui clivait et qui retenait certains électeurs de soutenir les partis d'extrême droite et les partis eurosceptiques. Aujourd'hui, ça ne clive plus, vous l'avez très bien dit, mais Donc finalement, c'est plus un risque pour les Européens et pour les électeurs européens s'ils mettent un bulletin eurosceptique dans l'urne. Et on a vu aux dernières élections européennes le renforcement de ces partis eurosceptiques, dont l'ambition avec le parti des Patriotes pour l'Europe, qui est devenu le deuxième parti au Parlement européen, derrière le parti populaire, c'est-à-dire le parti de droite et de Madame von der Leyen. Et en fait, ça, c'est un risque majeur, parce que ça fragilise l'Union européenne, ça ralentit la prise de décision, c'est un peu un grain de... un caillou dans la chaussure des institutions européennes, et pour avancer, alors même que la situation exige qu'on aille plus vite, avec la volonté, une volonté affichée de jouer ce jeu-là, en fait, hein, d'affaiblir les institutions européennes de l'intérieur.
Alors, on parlait de la Chine. La ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, s'est justement rendue en Chine. C'était entre le 10 et le 13 janvier, donc juste avant l'intronisation de Donald Trump à la Maison-Blanche, avec donc une approche de réengagement du Royaume-Uni qui cherche des liens, on l'a dit, plus serrés avec la Chine. Un réengagement compliqué qui se situe dans un contexte où l'Union européenne, Sylvie Matelli l'a dit, se tient une position plus prudente. Votre regard à vous, Jean-Dominique Giuliani, sur...
À mon avis, c'est une tentative complètement vaine, parce que d'abord... comment dirais-je, c'est un peu surestimer les forces du Royaume-Uni que de vouloir traiter directement avec la Chine, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan diplomatique.
En tout cas, ils ne peuvent plus faire que comme ça, de toute façon, oui, puisqu'ils sont isolés, vous l'avez dit.
Oui, mais les Américains de Donald Trump vont exiger une autre attitude. Et là, ils seront, comme Sylvie vient de le dire, dans une situation difficile. J'ai un exemple en tête d'un sujet qui pourrait montrer la problématique britannique. C'est tout ce qui concerne la régulation du numérique. On a vu Elon Musk s'attaquer au Premier ministre. On voit bien qu'il va y avoir du côté des Américains une volonté d'être solidaire des grands groupes de la tech, de la technologie, qui se sont ralliés à Donald Trump. Mais en face, il n'y a que l'Union européenne qui a adopté une régulation extrêmement rigoureuse sur l'organisation du marché intérieur, mais aussi sur les excès et la régulation, notamment face à la désinformation et autres. Donc ce sont des textes, ce sont des règlements européens qui sont rentrés en fonction et qui sont des lois qui s'appliquent.
Elle risque de sauter, cette régulation.
Mais pas du tout, justement. C'est ce qu'on entend, ce que je lis dans la presse. Ce sont des lois entrées en vigueur que tout tribunal, national comme européen, doit appliquer. Et donc, ils ne peuvent être contestés que devant la justice. Et certainement pas dans un grand marchandage avec l'Amérique. C'est là que Donald Trump et son administration n'ont pas compris de quoi il s'agissait. J'en veux pour preuve qu'en dehors d'Elon Musk, le patron de Meta, le patron d'Amazon, n'ont pas attaqué les régulations européennes, parce que le marché européen est une fois et demie le marché américain en termes de consommateurs pour les produits numériques. Et donc nous avons ces lois, elles vont s'appliquer, et comment dirais-je, les Britanniques, ils sont de notre côté. Ils sont du côté des lois européennes pour réguler les excès, etc. Donc, il va y avoir là un problème majeur qui illustre bien comment ils vont se trouver coincés entre une administration Trump extrêmement brutale, qui voudra négocier tout, et une Union européenne qui, au moins sur les sujets numériques, ne cédera pas, parce qu'elle ne peut pas. On ne peut pas annuler ces règlements, même dans une négociation diplomatique. Donc je crois que c'est un acquis de l'Union européenne, et donc ça peut se retrouver devant la justice, mais par exemple, on peut prédire que Elon Musk, qui vient d'être attaqué par l'Union européenne pour son détournement de ses algorithmes au profit de l'extrême droite, on peut d'ores et déjà dire qu'il a une bonne chance d'être condamné à des peines énormes en termes financiers qui feront certainement bondir l'administration Trump, mais ils seront condamnés.
Alors, en tout cas, ce qu'on on entend hein, de cette conversation autour de du Royaume-Uni, c'est que ben voilà, Londres va se retrouver à faire un grand écart entre l'Union européenne et les États-Unis. Ça va être intéressant, bien sûr, de suivre tout ça. Vous parliez de l'OTAN précédemment. Il y a une réunion qui a été prévue pour le 3 février prochain en Belgique et qui va réunir les dirigeants de l'Union européenne, pardon, du Royaume-Uni et le secrétaire général de l'OTAN. J'ai deux questions encore. Il nous reste 5 minutes. La France a perdu tout de même un bon allié au sein de l'Union européenne avec ce départ de Londres de l'Union européenne. Et puisqu'on parlait de Brexit et de désengagement, où est-ce qu'on en est, Thibault Roy, des velléités d'indépendance de l'Écosse?
Alors, sur la relation franco-britannique, oui, alors c'est vrai que la France a perdu un allié, mais aussi un rival, en quelque sorte, dans la construction européenne. On a rappelé tout à l'heure les différentes visions qui s'affrontaient au sein de l'Union européenne quand le Royaume-Uni en était membre. Et la volonté d'approfondir la construction européenne plutôt que d'élargir, ça, c'était quelque chose que la France défendait, alors que l'élargissement était défendu par le Royaume-Uni dans le but peut-être parfois d'empêcher l'approfondissement. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, s'est perdu. Et plus largement, je dirais qu'on a perdu une triangulation entre la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et chacun aimait bien avoir le Royaume-Uni dans le jeu pour essayer de trianguler plutôt que d'être en bilatéral. Et ça, c'est évidemment voilà, quelque chose qui a changé, même si la France reste un allié de premier choix pour le Royaume-Uni et réciproquement en ce qui concerne notamment les questions de sécurité et de défense. Et ça, on le voit et avec l'évolution récente de l'attitude du Royaume-Uni vis-à-vis de l'Union européenne et vis-à-vis de ses partenaires européens, le changement de discours, on a eu la relance tout de suite de cette relation franco-britannique bilatérale et l'organisation de nouveaux sommets bilatéraux, avec cette année probablement aussi l'annonce d'une refonte de l'accord de Lancaster House, qui fonde la défense franco-britannique depuis 2010. Et donc ça, c'est quelque chose d'attendu et qui montre le dynamisme retrouvé de la relation bilatérale. Sur le second point que vous évoquiez, sur l'Écosse, c'est complètement autre chose. C'est vrai qu'on s'est posé la question, immédiatement après le Brexit, de l'avenir de l'Écosse au sein du Royaume-Uni, et par ricochet au sein de l'Union européenne, puisque les Écossais avaient refusé l'indépendance en 2014 lors d'un référendum, mais avec à l'époque l'idée que de toutes les façons, ils restaient dans l'Union européenne, et même en cas d'indépendance, ils allaient rester dans l'Union européenne. Donc finalement, il n'y a pas eu d'indépendance, mais l'Union européenne restait là. En 2016, en revanche, au moment du référendum sur le Brexit, l'Écosse a voté majoritairement pour rester dans l'Union européenne. Et là, pour le coup, la donne a changé, puisque l'Écosse restait membre du Royaume-Uni, mais contre sa volonté, sortait de l'Union européenne. Et donc là, la question s'est posée de l'organisation d'un nouveau référendum sur l'indépendance écossaise, en se disant, mais finalement, est-ce que les Écossais n'auraient pas intérêt ou ne voudraient pas devenir indépendants pour pouvoir rester membre de l'Union ? Bon, c'était une grande question pendant quelques années. Et finalement, le parti au pouvoir en Écosse, le parti indépendantiste SNP, le Scottish National Party, n'a pas réussi à emporter cette idée, n'a pas réussi à pousser l'idée d'un deuxième référendum qui, de toute façon, n'aurait pas été accordé par les conservateurs, qui sont fondamentalement unionistes, qui veulent maintenir l'union du Royaume-Uni. Et aujourd'hui, le vote de juillet 2024 a montré que, finalement, le SNP était en fort retrait politiquement en Écosse, et que même pour les électeurs écossais, finalement, la question de l'indépendance n'était plus la priorité. Et qu'ils partageaient avec les autres électeurs britanniques d'autres priorités qui étaient plutôt économiques, qui étaient plutôt sur le thème de la crédibilité des dirigeants, du maintien des services publics. Et c'est ça qui l'a emporté. Et finalement, les travaillistes sont arrivés en tête en Écosse, comme dans le reste du pays, avec l'idée que voilà, il fallait s'occuper d'autre chose que de l'indépendance et que c'est pas maintenant ça qui allait être la priorité pour eux. Et on verra d'ici 2 ans, lors des élections au Parlement écossais, si cette tendance est confirmée et le SNP pourrait bien perdre sa majorité relative au Parlement écossais.
Tout cela ne pouvant que satisfaire finalement Londres, en guise de conclusion, Sylvie Matelli, Jean-Dominique Giuliani, très rapidement.
Oui, tout à fait. Et ça illustre aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le fait que le Brexit est un sujet dangereux, parce que l'indépendance de l'Écosse était étroitement liée à cette question du Brexit.
Et les Espagnols suivaient ça avec attention, Jean-Dominique Giuliani.
Oui, je pense que pour l'histoire de l'Union européenne, c'est une phase très importante de montrer que ce Brexit n'a pas réussi et constitue en quelque sorte un vaccin contre des tentatives un peu faciles que les milieux populistes pourraient véhiculer.
Merci Jean-Dominique Giuliani. Je rappelle que vous êtes président de la Fondation Robert Schuman. Merci aussi à Sylvie Matelli, directrice de l'Institut Jacques Delors, et Thibaut Arroy, maître de conférence en civilisation britannique contemporaine à l'Université Sorbonne Nouvelle. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Mathias Golchani à la réalisation et Cécile Lavolo. Vous êtes bien sur RFI. Place au Journal Afrique.